Dans cette deuxième heure, Paul Oud va venir faire son tour. Il va nous parler de son cabinet fantôme. Je ne sais pas trop ce qu'il nous réserve là-dedans, mais c'est toujours intéressant. Loïc va venir faire le tour de l'actualité internationale, qui est très riche. On va vous parler du sucre aussi. Est-ce que le sucre peut devenir une drogue? Ou est une drogue? Puis c'est une vraie question, là. De plus en plus de scientifiques se posent la question, est-ce qu'on peut devenir addict au sucre? Puis là-dessus, je vais vous... je vais vouloir avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes accro au sucre? Moi, je vous le dis, je suis une bébête à sucre. Je vous le dis là, spontanément, j'ai été élevé sur une terre, on mangeait beaucoup de sucre. Évidemment, c'est physique. Mais il y a quelque chose de, de difficilement contrôlé. Je vous le dis, là, honnêtement, là, c'est pas évident. Mais d'abord, je veux vous parler de cette histoire donc qui a été rendue publique par Francis Pilon dans le Journal de Montréal. La misère humaine, mes amis. La misère humaine, là. Quand tu lis ça, là, une de ces locataires, donc, qui ont fait l'objet d'une éviction, hein, on les a carrément sortis d'un immeuble appartement. Certaines de ces personnes étaient là depuis des années. Et là, tu as l'une des personnes qui dit « Ça fait 11 ans que je vis ici, je perds tout. Mes meubles, ils sont infestés de coquerelles et je dois les laisser ici. » Puis là, tu fais comme « Hein? » Elle voudrait garder ses meubles infestés de coquerelles. Là, tu dis, c'est parce que c'est tout ce qu'elle a. Quelqu'un d'autre qui dit, c'est un journaliste, je pense, qui dit, il visite le logis, un des logements, puis il note une couche de carcasse de coquerelles d'au moins 5 cm qui se trouve sous le four. 5 cm, je ne me trompe pas, ça fait bien 2 pouces, ça, là. Fait que là, tu te dis, aïe, aïe. Qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? On va parler avec François Saillant, qui en a fait le combat de sa vie dans un instant. Mais d'abord, Philippe Sabourin, qui est porte-parole de la Ville de Montréal, qui va nous expliquer ce qui s'est passé. Bonjour, M. Sabourin.
Bonjour, M. Drainville.
C'est la Ville de Montréal, hein, qui a procédé à l'éviction de ces personnes-là.
On a été obligé de procéder à l'évacuation.
L'évacuation.
Ah, c'est pas de gaieté de cœur que la Ville de Montréal va procéder à une évacuation. Il faut vraiment qu'on ait atteint des seuils inacceptables. On comprend que ces gens-là, M. Drainville, il y en a plusieurs qui sont heureusement relocalisés. Ça fait 2 semaines qu'on les accompagne avec toutes sortes d'organismes. Il y en a 7 actuellement qui sont logés gratuitement. On les loge, évidemment, dans un hôtel.
Ou dans un hôtel?
Dans un hôtel.
En attendant de leur trouver un appartement?
Oui, à Rivière-des-Prairies ou Pointe-aux-Trembles. Dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Mais écoutez, imaginez le déracinement. Ces gens-là sont ancrés dans leur immeuble depuis des années,
oui,
dans le plateau Mont-Royal. Et oui, la ville les accompagne. On les lâchera pas. On leur offre un toit. Ils sont chauffés dans un logement décent, mais évidemment déracinés de leur milieu de vie. Ça, on le comprend. Mais c'est vraiment une mesure de dernier recours, là, l'évacuation. Il faut que je vous explique le contexte.
Allez-y.
On a ici un propriétaire. Je ne vais pas le qualifier. On a un propriétaire qui n'a pas assumé ses responsabilités. La Ville de Montréal, message.
Vous ne pouvez pas le dire, là, mais je vais le dire, moi, un crotté. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi.
Ce que je veux dire au propriétaire, au nom de l'administration que je représente, la Ville de Montréal, les propriétaires, là, ça vient être propriétaire avec une responsabilité qui est importante. On doit procurer aux locataires un logement qui est décent, qui est correctement
entretenu. Est-ce qu'ils payent un loyer, là, ce monde-là? Là?
Absolument. Et les gens ici dont on parle, c'est des gens qui luttent pour survivre tous les jours, qui n'ont pas les moyens de défendre leurs droits. Et n'eût été de l'intervention de la Ville de Montréal, ils auraient été dans un logement pas chauffé. Imaginez-vous donc, même pas chauffé. La Ville de Montréal n'a pas agi à la dernière minute. On est sur le dossier depuis plusieurs mois. D'abord, c'est la responsabilité de l'arrondissement. Mais quand l'arrondissement fait valoir le règlement, demande des actions, prend des mesures coercitives, qui n'ont aucune réponse du propriétaire, à ce moment-là, ils ont besoin de plus de ressources. Donc, la Ville-Centre débarque en avril dernier dans le dossier. On a été tenu de faire, en lieu et place du propriétaire, des travaux pour au-delà de 100 000 $ Okay? On se fera rembourser
dans l'immeuble, là?
Absolument. Parce qu'on voulait absolument pas coopérer.
Mais on lit un matin, là, je pense que c'est quoi? Il n'y a plus de chauffage dans cet immeuble-là. Je me trompe ou j'ai rêvé, là?
Non. On a découvert ça après la dernière extermination qu'on a fait au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, on a procédé à des travaux en lieu et place parce que le propriétaire, c'est une propriété privée, là. Il prend pas ses responsabilités, s'occupe pas de son monde. On a été obligé de faire les travaux. On a mis plus de 100 000 $. Puis là, je vous passe même les amendes qui ont été envoyées aux propriétaires. Mais au bas mot, 100 000 $, on fait les travaux. Et lorsqu'on se rend compte, parce que vient le temps de partir le chauffage, on se rend compte que l'équipement est pas fonctionnel. Puis on peut pas le réparer à peu de frais, là. On parle vraiment d'un système qui était absolument caduque. Donc, il faut tout reconstruire le système de chauffage, ce qui représente des sommes colossales.
Mais est-ce que c'est
impossible de faire les travaux avant les grands froids? Donc là, on a été contraint de procéder à l'avis d'évacuation. Il faut comprendre que la Ville de Montréal, ici, on travaille parce qu'il y a des conditions de vie qui sont inacceptables, inhumaines. On ne peut pas garantir la sécurité, la santé de ces gens-là. Il y avait des risques d'incendie. Écoutez, les gens chauffaient avec le poêle allumé, là. C'est là qu'on était rendu là.
Ils chauffaient avec la cuisinière.
Avec la cuisinière.
Les gens y ouvraient la porte du four pour...
Écoutez, ils vont avec les moyens du bord. Donc, dans les deux dernières semaines, on leur a donné le soutien nécessaire pour stabiliser la situation. On va continuer parce qu'il y a du travail encore à faire. Donc, on est là, on soutient, mais je veux juste préciser qu'on n'est pas naïf. On le sait, là. Ici, les gens qui sont le plus pénalisés pour l'instant, c'est ces locataires qu'on a déracinés.
Oui, d'accord. Mais là, lui, là, le propriétaire, là, puis je lis dans le papier de Francis Pilon, nouveau propriétaire, Maïr Osdilek, lui, là, il fait tout ça, dans le fond, pour justement que vous finissiez par évacuer le monde pour qu'il puisse jeter l'édifice à terre puis remplacer ça, mettons, par des condos. Ça se peut-tu que ça soit ça, son idée?
Il est précisé dans l'article qu'il est propriétaire depuis avant-hier, là. Alors... Ça a tout l'apparence d'un stratagème, mais je vais pas commenter.
Quel stratagème? Je veux comprendre.
C'est-à-dire qu'il y a l'ancien propriétaire pour lequel on a eu zéro collaboration, qu'on a été obligé de faire les travaux en lieu et place du propriétaire.
Ouais, ouais.
Au moment où on fait l'avis d'évacuation, il y a une vente de l'immeuble.
Est-ce qu'il y a une vente à quelqu'un qui connaît, mettons?
Je ne peux pas me positionner là-dessus.
On ne sait pas.
Ce que je veux, que ce soit très clair pour les citoyens montréalais qui nous écoutent.
Oui.
Ils m'ont entendu dire que la Ville de Montréal, puis tout le monde est d'accord, je pense que les Montréalais, ils ont l'esprit de solidarité. Là. C'est justifié de ne pas avoir fait de calcul et d'avoir payé pour les travaux qu'il y avait à faire et payé pour l'hébergement de ces gens-là. Ça, on remet pas ça en question. Mais la Ville de Montréal a un contentieux et on va s'assurer de faire tout le possible pour aller recouvrir ces sommes-là.
OK. Mais est-ce qu'il peut, le propriétaire, jeter ça à terre puis remplacer ça par des condos? C'est ça ma question.
Écoutez, on est dans un environnement légal où il y a de la réglementation. On est dans les limites, je pense, de l'acceptable au niveau... Strictement, si on le regarde d'un point de vue légal, probablement qu'on est dans l'acceptable au niveau de l'analyse législative.
Okay, vous êtes en train de répondre oui à ma question, là.
Je veux pas y
dans
répondre
le fond,
directement.
Ce gars-là, là,
notre préoccupation, Ville de Montréal, là, il y avait un problème de sécurité.
Oui,
il fallait loger ces gens-là.
On a compris
on
ça.
L'a fait,
Monsieur
on est là pour les soutenir.
On a compris ça, là. Mais j'essaye de comprendre, moi, là, c'est quoi qu'il y a derrière la tête, ce propriétaire-là, là. Puis je me demande si, dans le fond, tout le monde comprend que ce que vous avez fait, c'est pour aider les êtres humains qui vivaient dans ce bloc-là, Simonac.
Oui.
Mais je me demande si le calcul du propriétaire, c'est pas justement de vous pousser là pour qu'après ça, il rase tout ça, puis il développe autre chose dessus. C'est ça que je me pose comme question. Puis dans votre regard, je lis que ma question est légitime. C'est ce que je lis. Je me demande pas de commenter. J'interprète votre regard que ma question est légitime. Maintenant, juste avant d'aller à François Saillant, dernière question. Les gens, vous les supportez présentement, vous les aidez, même dans certains cas, vous les logez.
Oui.
Vous allez le faire pendant combien de temps? Ils ont encore combien de temps pour se trouver un logement, ces gens-là?
On va stabiliser la situation. Ces gens-là vont recevoir du soutien de la Ville de Montréal. Pour l'instant, on a stabilisé la situation en, par exemple, prenant soin des animaux. On va prendre soin des meubles.
Vous avez pris soin des animaux? Qu'est-ce que vous avez fait avec les animaux?
Les animaux sont en refuge.
En attendant que les personnes se retrouvent un appartement?
Oui,
OK, vous n'avez pas donné les animaux?
Non, ils sont confiés à un refuge. On va mettre en entreposage les meubles qu'on peut sauver parce que, vous l'avez dit, il y a infestation.
Ça, ces meubles-là, on s'entend que ça s'en va. Il faut que ça soit brûlé, incinéré ou site d'enfouissement.
Ce que je peux vous dire, là, c'est que ces gens-là, ils sont accompagnés puis entourés. Je veux dire, je veux juste le souligner là, parce qu'on a eu un travail extraordinaire du comité de logement du plateau. Il faut que je souligne l'OMHM.
L'office municipal.
Absolument.
D'Hochelaga-Maisonneuve.
Oui. Le SPVM, la santé publique est impliquée.
D'accord.
C'est un problème, François Saillant vous en parlera, qui est complexe, le logement social. Et ça ne peut pas se résoudre simplement. On va manger de l'éléphant, là. On va y aller boucher par boucher. Puis on va aller chercher les meilleurs alliés pour faire en sorte qu'on va améliorer les conditions décentes à Montréal pour les locataires, parce que si vous me permettez...
Oui, en terminant.
En terminant, les logements locatifs, c'est plus de 500 unités de logement, 500 000 unités de logement.
Non, mais c'est la mairesse nous disait là, la semaine passée, c'est 70 % de la population à Montréal qui sont des locataires.
Oui.
C'est ça, 70?
C'est entre 60 et 70 % bon, okay. qui sont locataires à Montréal, effectivement.
Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville, merci. Vous pouvez rester pour l'entrevue avec François Saillant si vous le souhaitez.
Merci.
François Saillant, ancien porte-parole du FRAPRU, hein, Front d'action populaire en réaménagement urbain. Et je vous jure que c'est une coïncidence, mais il sort aujourd'hui son livre qui s'intitule « Lutter pour un toit ». François Saillant, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Enfin, je vais être plus précis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je me dis, il faut vraiment que tu sois désespéré pour vivre puis pour t'accrocher à un appartement dans lequel tu vis et qui est infesté de punaises puis de coquerelles. Il faut vraiment que tu sois désespéré, là.
C'est très clair. Ces personnes-là sont désespérées. Là, situons-nous la situation. Regardons la situation. T'es sur le plateau Mont-Royal. Plateau Mont-Royal, qui est un quartier qui s'est gentrifié, où les loyers sont de plus en plus chers et où les gens à faible revenu ont de moins en moins leur place. Là, tu as des locataires qui habitent dans des logements que le propriétaire, et je suis d'accord avec l'interprétation de Mme Sabourin là-dessus, que le propriétaire laisse dégrader volontairement, qui refuse d'obéir à tout. Mais là, tu te retrouves dans la pire des situations. Tu as des locataires qui ont vécu une situation misérable pendant des années. Maintenant, ces gens-là se font évincer. Et comme vous le dites, malheureusement, il y a un nouveau propriétaire qui arrive et qui risque de transformer le tout, de démolir, transformer le tout en condominium auquel les gens qui ont été évincés pourront, et les autres gens du quartier ne pourront pas avoir accès. Pour moi, c'est le pire des scénarios. Et je me dis, il y a quelque chose qui manque. Ça se peut pas qu'on se retrouve dans cette situation-là. Pour moi, dans une situation idéale, il devrait avoir un pouvoir de saisie qui soit exercé par la ville sur ce genre de propriétaire-là. Ce genre d'édifice-là, la ville de Montréal devrait avoir le pouvoir de saisir l'immeuble, pas de compenser financièrement le propriétaire qui a laissé ses immeubles se dégrader pendant des années, parce que souvent, c'est ce qui arrive, mais tout simplement de saisir ces immeubles-là et ce type de propriétaire-là.
Est-ce que ça existe ailleurs, François Saillant, le pouvoir de saisir? Est-ce que
ça existe? Je suis certain que ça devrait exister. Je vais vous donner un exemple. Et j'ajouterai à ça, il y a saisie et le fait que il y a des gens qui ne devraient jamais être propriétaires de logements locatifs, parce que le monsieur qui a laissé tout ces immeubles là se dégrader, ce propriétaire là peut acheter d'autres immeubles, il y en a peut-être d'autres déjà, et continuer comme si de rien n'était. Et pour moi, ça, c'est une situation qui est inacceptable. Un mauvais conducteur, quelqu'un qui est dangereux sur la route, qui est dangereux pour la sécurité des autres, à un moment donné, on lui enlève son permis. Pourquoi?
Donc, une espèce de liste noire, hein? Une liste noire, François Saillant, des entrepreneurs véreux.
Ben, on pourrait appeler ça comme ça, mais moi, pour moi, ça veut dire tout simplement une interdiction. T'as eu un immeuble, tu l'as laissé se dégrader, t'as laissé les gens vivre dans des situations d'insécurité très grande, d'insalubrité très grande. Tu n'as pas le droit d'être propriétaire d'un autre immeuble et de recommencer le même scénario. Il va falloir en venir à ce type de mesure-là si on veut faire en sorte, à un moment donné, qu'on se retrouve pas dans ces situations-là. Et malheureusement, parce que je viens justement on va publier aujourd'hui un livre dans lequel je compte les histoires de lutte sur le logement des 70 dernières années. Malheureusement, ce genre de situation-là où tu invoques le fait qu'il y a des taudis qui existent pour les démolir et éventuellement faire de la place à d'autres choses où les locataires n'ont pas leur place. Pour moi, c'est un scénario qu'on a trop vécu et derrière tout ça, il y a quand même un droit qui est violé, qui est le droit au logement.
François Saillant, comment ça se termine ces histoires-là habituellement? Les gens actuellement, pour certains d'entre eux, sont logés gratuitement par la ville. Est-ce que dans la majorité des cas, je comprends que c'est pas tous les cas, mais dans la majorité des cas, ils vont trouver un moyen de se reloger?
Et les gens peuvent se reloger, mais où vont-ils se reloger et à quel prix vont-ils se reloger? C'est ça le gros problème. Les gens parviennent, grosso modo, on peut dire généralement, à se reloger, mais dans un autre quartier. Et là, tu es coupé totalement de ton milieu, du milieu dans lequel tu vivais. Ou encore de payer beaucoup plus cher. Et déjà, ces gens-là n'arrivent pas à payer leur loyer sans couper dans leurs autres besoins essentiels. Donc, pour moi, on peut, puis je pense que la Ville de Montréal s'occupe bien de ces gens-là présentement. Éventuellement, il y en a qui vont avoir accès à des logements sociaux. Mais pour moi, c'est quand même pas une situation idéale. Cet immeuble-là aurait dû être saisi et transformé en logements sociaux avec l'assurance que les personnes qui demeuraient puissent y retourner.
Je trouve ça intéressant comme idée, en tout cas, le pouvoir de saisie. On en reparlera. François Saillant, donc ancien porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, auteur du livre « Lutter pour un toit » qui sort aujourd'hui. Merci, M. Saillant.
Merci, au revoir.
Les gens me demandent où est-ce qu'il est le bloc, là, Bernard. Tu me parles d'un édifice appartement, c'est où? Ben, le plateau Mont-Royal, vous voulez l'adresse exacte? Là? 1150 Marie-Anne-Est. 1150 Marie-Anne-Est, c'est là que ça s'est passé. On s'arrête, parce qu'au retour, je vais vous entendre sur le sucre. Vivez-vous une dépendance, ou en tout cas, vous posez-vous la question, ou peut-être que vous avez réussi à vous sevrer? Hein, à vous sevrer, on va parler à une nutritionniste, puis on va vous parler à vous dans un instant.